Vous écoutez France Culture.
Dans chaque tumulte, trouve écho dans son œuvre. L'expérience concentrationnaire, la clandestinité, l'existence entre l'Espagne et la France, le travail douloureux sur la mémoire et la langue. Si la vie continue, conversation de Georges Semprin avec Jean Lacouture, un livre France Culture.
Et France Culture, vous y êtes. Dans précisément 10 secondes, il sera 17h. Il sera donc l'heure d'écouter sur les docs l'émission des documentaires. D'ici demain, énervez-vous.
Sur les docs. Bienvenue sur les docs, où après Yann Lemasson, La Nouvelle Monnaie l'Abeille, le témoignage hier de femmes marocaines vivant en France, nous vous proposons aujourd'hui de revivre quelques luttes féministes et d'interroger la métamorphose du féminisme aujourd'hui. Depuis la publication par Olympe de Gouges en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, les mouvements de femmes ont connu heures de gloire et heures d'oubli. Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe, et Valérie Solanas, avec Scum Manifesto, ont au siècle dernier apporté le trouble dans le rapport homme-femme. Aujourd'hui, les collectifs s'appellent Osons le féminisme ou La Barbe. Le journal Cosette propose chaque année la quiche d'or. Et en les rencontrant, la documentariste Nejma Bouakra, se souvenant que sa grand-mère n'avait pas l'usage du chéquier familial, nous convie à une exploration des différentes facettes du féminisme contemporain.
Allez, c'est parti! Ouf.
On a eu chaud.
Pourquoi tu rigoles?
Parce que, Angela, tu es infâme.
Moi? Je ne suis pas infâme. Je suis une femme.
Féministe? Et vous? Un documentaire de Nejma Bouakra et Christine Robert.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Le mouvement de libération de la femme.
Ah non, monsieur. Le mouvement de libération des femmes.
Ben, à l'époque, on parlait de la femme. Et j'ai remarqué que depuis un an et demi, deux ans, en France, ça revient, la femme. Au lieu de parler des femmes, on parle de la femme. Et la preuve, quoi, un des signes qu'on est quand même reparti en arrière, beaucoup, c'est justement que le mot la femme est en train de revenir dans le vocabulaire.
La marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne.
Parler de la femme, c'est un peu faire disparaître toutes les autres femmes.
Bien entendu, ça fait disparaître les femmes, le fait que ce sont des personnes tout à fait concrètes, qui ont des pieds, des bras, des jambes, des têtes, et qui ne sont pas toutes pareilles, et qui ne sont pas juste une image ou un concept. Bien entendu, ça fait disparaître les femmes concrètes. C'est pas seulement les autres, ça fait disparaître l'ensemble des femmes concrètes.
La vraie rupture, peut-être... des espaces féministes, ça a été d'abord de déconstruire et de refuser la femme, je dirais, avec un grand F, avec toutes les valeurs et les prérogatives que ça impliquait, cette construction que Simone de Beauvoir appelait une véritable mystification, et qui, au fond, fonctionnait comme une sorte de police normative pour dire aux femmes multiples et variées comment elles devaient être pour pouvoir accéder justement aux places qui leur étaient réservées. L'idée, ça a été de pluraliser ce sujet, d'en faire un sujet pluriel, de parler des femmes et de la multiplicité de leur expérience, de leur vie, la multiplicité d'être justement d'être dans la féminité. Et depuis quelques années, et même, je dirais, quelques décennies, on a de toute façon, historiquement aussi, la volonté de dépasser encore cette idée d'un sujet pluriel femme pour essayer soit de dégenrer complètement les identités, de dire on est dans un au-delà du masculin ou du féminin.
Où trouve-t-on les féministes ?
Partout, bien sûr, comme de juste. Nous sommes partout.
Agnès, tu souhaitais avoir les premières indications. C'est ta première action barbe. Bienvenue à la barbe. On va te confier une barbe. Tu vas te mettre auprès de quelqu'un qui l'a déjà fait, bien sûr. Tu t'assieds, peu importe l'endroit. Mmh. Tu repères surtout les autres barbus dans la salle. Et tu essayes de repérer la barbue chef d'orchestre, celle qui va lancer les troupes au moment où... et qui va inviter les autres barbus à se lever pour mener l'action. Et c'est au moment où tu te lèves que tu enfiles la barbe.
Tu as ta barbe.
Mais non. Ah non, tu n'as pas de barbe non plus.
J'ai pas de barbe.
Toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Ordonnance de 1800. Allons, c'est un temps révolu. Et puis, ce n'est pas l'habit qui fait la femme, quoique certains mesurent l'émancipation des femmes à la hauteur d'une jupe. Oui, nous pouvons nous promener en bikini sur la Côte d'Azur, mais ne nous retranchons pas derrière ce cache-sexe. Ce sexe, d'ailleurs, si mal connu. Il faut attendre mai 2009 pour que le docteur Odile Buisson réalise une échographie complète du clitoris. En bikini, en jupe ou en pantalon, les femmes ont acquis le droit de vote et d'éligibilité, mais elles ne dépassent pas la barre des 6% jusqu'en 1997 à l'Assemblée nationale. La loi sur la parité, votée en 2000, reste bien en deçà des espoirs qu'elle avait suscités. La part des parlementaires femmes oscille aujourd'hui entre 18 et 19%, et les partis sont prêts à payer cher pour ne pas s'y plier. Si les grands combats féministes ont été gagnés du côté du droit et devant les tribunaux, avortement, recriminalisation du viol, le droit doit être sans cesse remis sur le métier. Nous désobéirons au sage conseil de Madame de Stael, un homme doit savoir braver l'opinion, une femme s'y soumettre.
L'heure est venue, alors qu'approche... le terme de ce colloque, de se demander si...
Rendez-vous avec la barbe à un colloque sur les biotechnologies végétales. La Fondation Écologie Avenir compte 93% d'hommes à son conseil scientifique. Les talons, l'avenir, en chair et en os, c'est l'homme.
Donc là, une barbue a lancé le signal est donc 1, 2, 3, 4, 5 femmes sont sur la scène. Les hommes se sont levés, ils se rassient.
Messieurs, nous sommes heureux de votre invitation à poursuivre notre démonstration du mois dernier, malheureusement restée inachevée. Alain, Eric, Grégory, Alain, Yves, Pierre, Denis, Bernard, Pierre, Vincent, Christian, Patrice et Michel. Merci de nous éclairer de vos nobles travaux, de votre savoir, de votre universelle et virile sagesse. Alors que nous sommes entourés de préjugés, d'ignorance, de dogmatisme de tous ordres, vous avez fait entrer dans cette maison, en ce début du XXIe siècle, comme vos pères l'ont fait au cours des 7 siècles passés, la lumière des hommes au service des hommes. Cette belle journée de grande et mâle intelligence, de propos profonds comme les labours anciens, nous ont comblés. Cependant, pardonnez-nous de vous
encore un micro qui marche. La barbe.
Oui, la barbe.
Messieurs, soyez à la hauteur de nos espérances. Persévérez dans votre loyauté à la virilité.
d'ores et déjà, nous vous en félicitons. La barbe. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Si vous,
vous avez des métiers, j'espère ?
Oui, docteur en économie et également scientifique.
Donc, alors, vous ne travaillez pas aujourd'hui ? Alors, moi, je retourne à mon travail. Merci, au revoir.
Ça, c'est une belle conclusion. Hein. Wow.
Vous avez l'habitude d'être reçue de manière aussi réactive et aimante. Vous n'avez pas pu terminer ce que vous vouliez dire. Le chiffre n'a pas été entendu. Vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de votre propos, qui était celui de dire que cette assemblée était à plus de 80% masculine.
Ça veut juste dire qu'il faut remonter les chiffres en début de tracte.
Voilà. Ça, c'est pour c'est la stratège qui vient de parler.
C'est vrai.
Christine Delphi, vit-on un backlash, un retour de bâton ? Si on pense par exemple à ce que toutes les femmes ont pu gagner grâce à leur combat, mais si je pense simplement à ma grand-mère qui n'avait pas accès à son propre carnet de chèques, ou à ma mère maintenant qui a pu travailler, je vois malgré tout de nouvelles injonctions, par exemple concilier vie conjugale et familiale avec la vie professionnelle.
C'est le maintien des privilèges du groupe qui est opposé aux femmes, c'est-à-dire le groupe des hommes. Ce groupe-là veut maintenir ses privilèges, qui est de travailler et de ne pas être embêté par le travail domestique ou de ne pas s'occuper des enfants, et il les maintient. Donc ce qu'on dit aux femmes, c'est oui, vous pouvez travailler, mais vous supportez tous les coûts de ce travail. Vous supporterez le coût financier, ça sera sur votre salaire que la nounou sera payée, si vous avez une nounou, et ça sera sur votre surtravail que vous pourrez travailler à l'extérieur à condition que vous ayez déjà tout fait à la maison. C'est ça le deal. Le deal, c'est vous n'allez pas toucher aux privilèges du groupe dominant. Donc c'est pas un backlash, c'est quelque chose qui n'a jamais cessé d'exister. Ce sont toujours les femmes qui ont la permission formelle, en effet, de travailler et qui travaillent, mais qui payent le peu d'indépendance qu'elles ont, parce que c'est une petite indépendance, malgré tout, elles le payent d'une somme de travail très importante, sinon elles le payent de la pauvreté. Le rapport entre les deux revenus est de 30 à 70, c'est-à-dire que pour un revenu global de 100, un des conjoints apporte 70, l'autre apporte 30. Alors, il n'est pas très difficile de savoir qui, en général, celui qui apporte 70, celui qui apporte 30. Là, on voit que les femmes payent deux fois, parce qu'elles payent, d'une certaine façon, en allant travailler, mais elles sont payées moins. Si elles travaillent moins d'une façon hebdomadaire, eh bien, elles vont être moins payées. Si elles s'arrêtent de travailler quand elles ont un enfant pendant un an, deux ans, trois ans, elles vont perdre en qualification. Et d'une façon ou d'une autre, elles vont gagner moins que leur conjoint, ce qui sert pour lui d'excuse à fournir moins de travail domestique. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux, parce que plus elles fournissent de travail domestique, plus elles sont incapacitées sur le plan du travail salarié, et plus ça justifie qu'elles soient moins payées, et moins elles sont payées, et plus leur conjoint peut exiger d'elles du travail domestique. Donc ça, c'est, on ne peut pas parler malheureusement de backlash, parce que c'est comme ça depuis longtemps. Et puis, on ne peut pas dire non plus que maintenant que les femmes travaillent depuis tout le temps. Non, je crois que ça fait partie aussi des mythes de notre époque, de tous les 10 ans, dire maintenant que les femmes travaillent, comme s'il y a 10 ans, elles ne travaillaient pas. Mais si, il y a 10 ans, elles travaillaient. Elles travaillaient déjà. Elles travaillaient déjà, et déjà, elles gagnaient moins. Et aujourd'hui, ça ne fait que continuer. C'est-à-dire qu'on veut absolument voir du changement, y compris là où il n'y a pas de changement.
Juliette !
Et Dieu créa la femme.
Juliette !
1956.
Hop, mets le couvert, les garçons vont rentrer. Oh, écoute ça, c'est formidable !
Perdition, qui rythme, cha-cha-cha, de toi, cha-cha-cha, la-li-la-li-la-la. Non, regarde, c'est comme ça.
Je t'en conjure, Michel, réfléchis. Cette petite est un peu comme un jeune animal. Il faut la dominer. Tu n'es pas encore un homme.
Perdition, qui rythme, cha-cha-cha, un, deux, trois, la-la-la, pa-la-la-lou-la-la, un, deux, trois, un cha-cha, di-la-la-la.
T'es idiote, mariage, c'est pas le couvent.
La, la, la,
on n'est pas
la,
sourds. La, la. Aïe.
Donc c'est
Sarah.
Thalia.
Lucie. Thalia, Sarah, Lucie, vous avez 30 ans ?
Non.
Même pas 30 ans. À peine 30 ans.
J'ai 26
ans.
Moi, j'en ai 28.
Et moi, 30. Vous étiez pas loin de la
Votre association se nomme Oser le féminisme. 40 ans après le mouvement de libération des femmes, le féminisme fait-il toujours peur ?
C'est sûr qu'il y a encore un refrain qui est très très présent dans la société qui est « je ne suis pas féministe, mais ». Ce qui veut bien dire qu'il y a une moitié du chemin qui est quand même faite. Des femmes et des hommes reconnaissent qu'il y a un souci, qu'il y a encore des inégalités entre les femmes et les hommes. Et en même temps, le féminisme a été caricaturé dès qu'il est apparu. Et donc la caricature a quand même bien bien prospéré. Et donc tous les clichés, les féministes seraient contre les hommes, les féministes seraient moches, mal baisées, enfin tous ces clichés-là, c'est vrai qu'ils sont encore très très ancrés.
Oser le féminisme, donc c'est donc le nom de votre association, vous avez été assez remarquée pour une campagne qui s'appelle Oser le clito.
Le clitoris, en fait, ça n'aurait échappé à personne. Il n'est pas à l'entrée du vagin, il est un tout petit peu éloigné. Il y a l'urètre entre lui et le vagin. Donc, du coup, il est à la fois coupé de la reproduction et coupé de ce qu'on appelle la pénétration. Or, l'interaction pénis-vagin, elle est plutôt gratifiante en moyenne pour les hommes. C'est plutôt pas mal pour les hommes hétérosexuels. Par contre, pour les femmes, c'est pas le seul moyen de plaisir. Et il se trouve qu'on a donc cet organe qui est prodigieux, qui est unique. C'est le seul organe de l'humanité qui a autant de capteurs de plaisir, environ 10 000, c'est-à-dire à peu près deux fois plus que le gland du pénis. Donc le clitoris, il a toujours inquiété, et il a toujours inquiété au plan politique, parce que il représente une menace, c'est-à-dire le risque que les femmes soient autonomes, aient une sexualité pour elles-mêmes, par elles-mêmes, et du coup qu'elles envisagent d'être autonomes dans tout un tas d'autres domaines.
La première fois qu'on a eu des rapports, bon, bah ça s'est passé comme avec mon mari, j'ai rien eu. Bon, alors sexuellement très puissant, il a recommencé 3, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 6e fois, bon, il est arrivé une chose que moi, pendant 5 ans, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. J'ai joui, j'ai pleuré. Enfin, j'étais vraiment. Il m'a regardé comme ça en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il avait 20 ans, il savait pas. Alors j'ai dit, mais je crois que je viens de jouir la première fois de ma vie. Ah, mais tu savais pas que les femmes pouvaient jouir.
Chair glaciale et claire.
Yaka pas baiser, 1973. Vidéo militante de Carole Rossopoulos.
Il avait 20 ans, il savait. Ah, mais c'est pas vrai, Marie-Thérèse, je savais pas. C'est le gars qui, au début, est resté 3 heures sur moi jusqu'à ce que moi je jouisse. M'a câliné, m'a caressé, a été câlin toute la journée, est venu m'embrasser sans arrêt, et est resté pratiquement 3 heures à avoir un rapport avec moi en se retenant, en s'arrêtant. Jusqu'à ce que je jouisse. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que généralement, il jouit en même temps que moi. Il attend pour jouir en même temps
que moi.
Donc
le plaisir est encore...
Et encore plus, et c'est pour ça que je tiens d'autant plus à lui.
Prix de beauté, 1930.
Lucienne, viens ici.
Piocher. Elles croient volontiers que parce qu'elles ont fait le contraire de ce qu'on leur demandait, elles ont pris une initiative, Guitry.
Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Charles Baudelaire.
Ils sont vieux tous. On va essayer de piocher un plus jeune.
Michel Charras, sénateur PS du Puy-de-Dôme. Voyez la mère Merkel, poum dans le popotin. Ou encore, c'est une baudruche qu'il faut dégonfler en parlant de Ségolène Royal. Hyper machiste, là.
En quoi les violences sexistes verbales, finalement, tissent une camisole aux femmes? C'est une sorte de rappel à l'ordre incessant.
Oui, c'est une façon de rappeler que systématiquement aux femmes qu'elles sont pas à la même place que les hommes et que on peut en rigoler et que c'est pas très grave. Et en effet, l'humour, les stéréotypes sexistes, les blagues, les remarques dans la rue, ça renvoie toujours les femmes à un rôle présupposé naturel qu'elle devrait avoir. À partir du moment où une femme, elle sort un petit peu de ce rôle-là, systématiquement, il y a toujours quelqu'un pour essayer de la remettre à sa place. On voit très bien en politique les remarques qui sont faites sur les femmes qui sont candidates ou sur les femmes qui sont en politique. C'est pas du tout le même type de remarques qu'on pourrait faire à des hommes politiques. En général, plus sur leur physique, qui est-ce qui va garder les enfants, ce n'est pas un concours de beauté, etc. On dirait jamais ça pour un homme politique.
Ce sexisme ordinaire, il pollue les têtes des femmes essentiellement et se retrouve comme ça avec plein de post-it mentaux et c'est autant d'énergie qu'elles n'ont pas pour d'autres choses. Donc c'est ça aussi le sexisme ordinaire, c'est que ça bouffe de l'énergie et c'est de l'énergie qu'on a en moins, c'est de l'audace qu'on a en moins pour prendre de la place, pour lutter contre l'autocensure qu'on a apprise toute petite quand on est une femme, etc.
En tant qu'individu, la femme est un être chétif et défectueux. Saint Thomas d'Aquin.
La femme est un animal ridicule et suave. Erasme, humaniste et théologien. La tête chez les femmes n'est pas un organe essentiel. Anatole France, écrivain français.
La femme est le produit d'un os sunuméraire. Bossuet.
Le mâle est un accident biologique, deux points. Scum Manifesto de Valérie Solanas.
Scum, vidéo militante de Carole Rossopoulos, 1976.
Le gène mâle Y est un gène femelle X incomplet, virgule. C'est-à-dire qu'il est un ensemble incomplet de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme incomplète. Virgule. Être mâle, c'est être déficient. Virgule. Limité émotionnellement. Point.
En fait, Scum Manifesto, c'est vrai que quand on le lit comme ça, c'est violent. C'est vraiment un miroir tendu à la misogynie. Mais il y a quand même un passage qui était super, super intéressant, qui disait en somme... Les mots qu'on emploie, nous, féministes, les mots que les femmes emploient, ils ne sont pas entendus de la même manière par les hommes parce qu'on n'a pas la même culture et on a beau vivre dans le même monde, comme on n'a pas la même place, on a du mal à s'entendre. Donc, sortons le couteau parce que quand on se plaint, eux, ils entendent, ils nous entendent chouiner, etc., etc. Donc, c'est cette idée de il y a urgence et il ne suffit pas de militer, de parler. On va peut-être devoir aussi utiliser le rapport de force et oser des comportements comme la violence, etc., qui sont réservés aux hommes, en fait.
Et enfin, il n'a pas de sympathie avec ses partenaires, virgule, mais est obsédé parce qu'il est en train d'accomplir, virgule, une performance de première classe. Un bon boulot de plombier. Point.
Elsa Dorlin, quel est le rôle du sexisme ordinaire et de l'insulte?
C'est un rôle... Il y a une fonction sur le sexisme ordinaire et l'insulte sexiste, sous toutes ses formes d'ailleurs. Les formes les plus larvées, les plus licites, comme les plus crasses et les plus évidentes. C'est une fonction qui est bien précise, qui est comparable à une sorte de police du genre, qui rappelle à l'ordre les femmes sur ce qu'elles doivent être et comment elles doivent se comporter. Les femmes, mais aussi les minorités sexuelles, parce qu'on sait très bien que les insultes sexistes, elles sont toujours et en même temps des insultes qui sont homophobes et lesbophobes. Et l'idée, c'est... également de peut-être au sein de nos actions, de nos réactions. C'est d'essayer de travailler sur la réappropriation des insultes, ou ce qu'on appelle la réappropriation du contenu infamant de l'insulte, pour essayer de neutraliser son rôle policier. C'est-à-dire à partir de si jamais on vous traite de salope et que vous dites oui, je suis une salope et ça fait partie, vous en faites même une fierté, plutôt que d'en faire une insulte, vous prenez cette catégorie de salope et vous en faites une catégorie politique en disant toutes les femmes sont des salopes et que vous défilez avec cette revendication. Tout d'un coup, l'insulte de salope est resignifiée et elle perd son contenu infamant pour devenir aussi une autre façon de politiser le rapport de genre. C'est-à-dire les femmes sont des salopes parce qu'elles revendiquent une sexualité libre, autonome et qui leur appartient. C'est notre langage, l'insulte est notre... Voilà, et ce par quoi on devient aussi des sujets. Après, il y a quelque chose de tragique dans cette idée-là. Enfin, c'est quand même incroyable cet effort que ça demande... non seulement de supporter l'insulte, de la dévoiler, mais en plus de devoir faire tout ce travail de réappropriation et de politisation des mots.
Because the media disrespected the death of a young woman by focusing on her being an escort.
2011, 70 villes autour du monde et autant de marches, slot walks, marche des salopes.
And Maggie of Esekle are proud to call their look slutty.
Pour dénoncer les viols de Londres, Melbourne, Denver, à Reykjavik, Brasilia, New Delhi, Mexico, Séoul, Matagalpa au Guatemala, qu'importe la tenue, le viol ne doit pas avoir droit de cité.
I strongly believe in women's sexuality. I think that I could dress in a thong and some tights, or maybe not wear any underwear when I'm wearing a skirt, and that not be a consent for me to get raped.
Turns out, Harris and Esekle aren't alone. Close to 2,000 people gathered in downtown Toronto today.
Par exemple, dans la campagne contre le viol, le message qu'on a essayé de répandre dans la population, c'est que le viol, c'est pas de la sexualité, c'est de la violence qui emprunte quelques atours de la sexualité, mais ça n'en est pas. Ça n'est pas une question d'appétit ou de besoin sexuel, c'est autre chose. Et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on lutte de toutes sortes de manières pour déconstruire cette espèce de culture liée au porno où les violences faites aux femmes sont érotisées. Il y a une glamourisation comme ça de la domination sur les femmes, mais pas seulement dans la pornographie industrielle, dans la publicité, dans plein d'éléments de la culture populaire.
Because of the hundreds of missing sisters in BC who...
10% de femmes portent plainte contre leur violeur. Difficile de ce fait d'obtenir des estimations exactes. Selon une étude récente menée par Véronique Legault-Aziou, à partir de près de 500 affaires de viol jugées en cour d'assises, dans 83% des cas, auteurs et victimes se connaissent. Les viols conjugaux représentent la majorité des viols déclarés. Ils ne représentent pourtant que 4% des viols jugés aux assises.
Les années 70, ça n'existait pas. Une femme n'allait même pas porter plainte. Elle savait qu'elle serait renvoyée. On ne savait pas l'étendue de la chose. On ne le savait pas. On ne savait pas les dégâts que ça faisait. On ne savait pas qu'il y avait des femmes qui en mouraient. Comment est-ce qu'on l'aurait su? Chaque personne connaissait sa situation. C'est tout. C'est ça le problème.
Les femmes n'en parlaient pas entre elles.
Non, les femmes n'en parlaient pas entre elles. Elles ont commencé à en parler dans le mouvement féministe, justement. C'est-à-dire que c'est le mouvement féministe qui a mis le thème de la violence, disons, domestique contre les femmes, exercée par les hommes contre les femmes dans les maisons, dans les foyers. C'est le mouvement féministe qui l'a mis à l'ordre du jour. Et ça a été très difficile, encore en 1995, au moment de la conférence internationale qui devait avoir lieu à Pékin. Il y avait un groupe qui devait représenter dans le gouvernement français et qui faisait le rapport français. Quand les femmes qui étaient dans ce petit groupe ont dit « il faut qu'on fasse un rapport sur la violence contre les femmes », il y a justement un chercheur homme qui a dit « mais quelle violence, nous n'avons pas de chiffres là-dessus ». Nous ne savons même pas que ça existe. Alors évidemment, il y avait pas, c'est un cercle vicieux, parce qu'il n'y avait pas de chiffres là-dessus, parce qu'on ne le cherchait pas, donc il ne pouvait pas y avoir des chiffres là-dessus. Voilà. Si on ne décide pas de décompter dans la rue combien de gens on rencontre qui fument ou qui ont des chaussures noires, eh bien, voilà un chiffre qu'on ne saura jamais. C'est ce qu'on appelle justement genrer les statistiques. Eh bien, c'est maintenant une obligation internationale, une obligation européenne, mais la France a toujours résisté les quatre fers à ça. Même aujourd'hui, ça fait que 2 ou 3 ans à l'initiative d'une personne que les homicides conjugaux sont répertoriés justement comme homicides conjugaux. Ça, c'est une bagarre aussi d'obtenir ça, d'identifier les violences conjugales comme des vraies violences et de les poursuivre. C'est dans leur foyer que les femmes risquent le plus d'être tuées. C'est-à-dire que le privé est quelque chose qui, par définition, doit échapper au regard et qui ne concerne que les personnes qui ont cette relation privée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de suspension de la loi. Normalement, on n'a pas le droit de battre quelqu'un. On bat quelqu'un, on donne une gifle à une personne inconnue. Ça fait un procès. Mais les hommes peuvent battre leur femme à mort, ou quasiment, et il leur arrive rien. Pendant ce temps-là, les femmes meurent. C'est moi la femme, c'est moi la...
C'est nous les prisonnières du foyer, servir l'état geôlier, notre destinée.
La Serpillière, 1975.
C'est nous les marchandises du désir, servir l'état bourbon et notre destinée. C'est moi la femme, la travailleuse, dernière embauchée, première licenciée. C'est nous les pions de l'échiquier économique, servir l'État patron et notre destinée. C'est moi la femme, moi la colère, c'est moi qui dis non à l'oppression. C'est nous la moitié de la terre, luttons contre l'État pour nos libérations. C'est nous la moitié. Contre l'État pour notre libération.
Je ne tiens pas particulièrement au statut de victime. Les premiers mois qui ont suivi, même, cette idée venait heurter l'idée que je me faisais du déroulement de ma vie. Ça n'était pas possible que je sois cette chose hagarde, emmurée vivante dans un quotidien rayé, tandis que, partout, le sexe était ce non-événement naturel et facile, ce choix, ces femmes qui clamaient leur belle santé dans tous les magazines surenchérissaient. Il m'arrivait de lire des témoignages, les gestes que les femmes normales faisaient, comment mieux les faire encore, leurs jambes légèrement écartées, le satin d'une culotte de marque, le doigt sur la bouche, toujours prête à s'entrouvrir, les yeux clos dans l'attente. En réalité, elles gisaient, comme démembrées pour mieux servir, leur corps confortable qu'elles positionnaient de la meilleure façon pour... tout bien ordonné pour... les crèmes, les soins, ce qu'il fallait faire pour s'oublier au moment merveilleux qui allait suivre. Ouvrez, 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 ouvrez. Alors il me prenait un besoin animal de m'enfuir, me retirer des mots et des images, vivre dans un bois, une montagne, sur une île peut-être, et trouver la consolation de mon inadéquation à tout ça dans mon excellent corps dansant. J'essaye de ne pas penser aux raisons qui ont fait que... J'essaye de ne pas m'embarquer dans de longs pourquoi, ne pas rationaliser cet acte, pas de « c'est arrivé parce que », ne pas me mettre dans sa tête qui conçoit l'acte.
C'est aux femmes à prouver qu'elles ont été violées, c'est-à-dire qu'elles ne consentaient pas. Alors, c'est plus facile quand le violeur est un inconnu et que le viol a eu lieu dans un parking ou dans une rue, etc., à l'aide d'une arme. Mais quand il s'agit de quelqu'un qu'elle connaît, que quand même la majorité des viols sont commis par des familiers, eh bien là, ça devient très difficile parce que quoi que dise la femme, ce qui est présumé, c'est qu'elle a consenti ou qu'elle a consenti à un moment. On ne sait pas exactement lequel. C'est-à-dire que toutes les manœuvres, les intimidations ou les coups qu'une femme peut subir avant le viol ne comptent pas. Et en fait, on demande aux femmes de prouver qu'elles se sont débattues, qu'elles ont résisté, et parfois au-delà même de ce qui est humainement possible. On veut toujours qu'il y ait des éléments qui fassent du viol un vrai crime, parce qu'en lui-même, ça n'est pas un vrai crime. Donc il faut qu'il y ait eu des coups, des tortures, des menaces... qui montre qu'il y a vraiment un aspect criminel. Dans le procès qui avait eu lieu et que Gisèle Halimi avait défendu deux jeunes femmes, Anne et Araceli, qui avaient été violées dans le Midi de la France, la juge d'instruction ou la présidente du tribunal, je ne me rappelle plus, avait dit « Mais la preuve que vous avez bien consenti à un moment, c'est que vous êtes encore vivante. »
C'est un peu spécial. Je connais l'agresseur. Le psy avait semblé ravi de mon spécial, s'y accrochant très vite. J'étais là pour tenter de convaincre. En réalité, ces séances me confirmaient qu'il aurait été préférable que je meure. Mon cas serait devenu plus clair et enfin crédible. Les femmes seulement violées ne provoquent pas d'empathie. Depuis que je vis sur l'île, j'ai vu plus de films que pendant toute la première partie de ma vie. Les meilleures violées meurent, saignent, leur tête va de droite à gauche sous les coups de poing d'un homme aux mâchoires serrées. Elles se débattent en poussant des cris déchirants quelques instants, puis succombent enceintes et regagnent in extremis leur pureté en les laissant gracieusement leur vie. À défaut de mort, il faut qu'elles puissent témoigner de torture, qu'on les défigure, brûle. Mais une simple pénétration de plus ou de moins dans un sexe fait pour être ouvert. Qu'est-ce que c'est ? Le rapport de l'expert psychiatre conclut que je présentais effectivement la plupart des symptômes des victimes de viol, chacun d'entre eux bien noté sur une échelle de 5. Mais il ne fallait rien en déduire. Il lui semblait que je manquais de confiance en moi, de manière générale. J'étais peut-être fragilisée psychologiquement par mes choix de vie et ma situation d'exilée. Il termina par ces mots. En résumé, il m'est difficile de me prononcer dans cette affaire.
C'était « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce ». Lecture de l'auteur, Lola Lafont.
C'est ça.
La femme de l'anglot est une anglotte. La femme de l'amigot est une amigotte.
Louise Bourgeotte, oh pardon, Louise Bourgeois, 1995.
Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote. Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, et elle, elle boursicote. Il cuisine, et puis elle, elle popote. Elle parlotte.
Oui, père, regarde comment moi je le fais. Par contre, je dessine les habits. Je les tout en noir, Zoro, pour de vrai.
Ouhou.
Zoro.
Ouhou.
C'est ça. Bah, tu sais, ce garçon-là, il se combat avec des méchants pour sauver les gens.
C'est ça.
Spider-Man, Batman, Superman, Iron Man.
Moi j'ai fait l'épée de Zorro. C'est bon, j'ai fini Zorro.
C'est ça.
Ah là, j'ai rappelé.
Tout le monde écoute. Aïna, Simon, Alexandra, Oriane. Oriane et Alexandra vont nous lire une histoire qui s'appelle
La princesse et le dragon. Élisabeth était une belle princesse qui vivait dans un château. Elle était vêtue somptueusement et devait bientôt épouser le prince Ronald. Hélas, un jour, un dragon écrabouilla son château, cracha un fait de flammes qui brûla tous ses vêtements et emporta le prince Ronald.
Mélanie Decour, vous avez monté une maison d'édition au nom, c'est drôle, de Talent Haut. On repère tout de suite, grâce au dessin, que l'histoire va être un petit peu différente.
On repère grâce au dessin, grâce au titre et puis grâce au nom des collections, puisque les collections pour les, d'albums s'appellent Des livres pour les filles et pour les garçons, avec un message indiqué sur la quatrième couverture qui explique que dedans on va trouver des princesses qui chassent les dragons, des mamans qui travaillent et des hommes qui sont des vrais pères. Et puis la collection pour les plus grands de romans s'appelle Livres et égaux. Donc voilà, le message est clair.
Elisabeth décida de poursuivre le dragon et de sauver Ronald. Elle chercha autour d'elle quelque chose pour s'habiller, mais tout ce qu'elle put trouver fut un sac en papier. Alors, elle revêtit le sac en papier et suivit le dragon.
C'est ridicule.
Elisabeth enjamba le dragon et ouvrit la porte de la caverne. Là se trouvait le prince Ronald. Il la regarda et dit : Elisabeth, mais tu es dans un état lamentable. Tu sens la fumée, tes cheveux sont mêlés et... Regarde ta robe, un vieux sac en papier. Reviens quand tu seras habillée comme une véritable princesse.
Là, je trouve que c'est un trop. C'est un tout petit peu trop maladroit.
Pour lui, c'est plus une princesse.
Pour lui, c'est plus une princesse.
Parce que normalement, c'est pas les princesses qui sauvent les princes.
C'est qui ?
C'est les princes qui sauvent les princesses.
Pour les petites filles, est-ce qu'on trouve facilement des idées de super-héroïnes, par exemple ? Puisque les petites filles aussi, justement, ont besoin d'images de réparation, elles ont aussi besoin d'images fortes et de représentations.
Oui, et c'est ce qui manque, effectivement, dans la littérature de jeunesse. C'est des supports d'identification positifs pour les petites filles. Parce que c'est vrai que la princesse, qui est quand même le support préféré des enfants...
Elle est endormie quand on l'embrasse.
Voilà, elle dort pendant 100 ans, elle fait le ménage. Elles sont quand même globalement assez cucuches. Hein. Bon, c'est pas le rêve d'une vie d'arriver dans une maison de nain et de la briquer du sol au plafond. Moi, ça me paraît toujours assez curieux. Donc, c'est assez facile de prendre le personnage de la princesse, parce que pourquoi pas garder ce support, puisqu'il fait rêver les petites filles, et de l'emmener ailleurs. Donc ça, c'est assez simple, finalement, de prendre un schéma classique d'histoire et de le retourner et faire que c'est la princesse qui est courageuse, c'est elle qui va chasser le dragon, sauver le prince. Voilà.
Un super-héros en rose ? On dirait une fille. Et pourquoi pas une robe ? Mieux vaut une ville à la merci des bandits qu'un super-héros qui se ridiculise devant nos enfants.
Quoi ?
Généralement, c'est les filles qui portent du rose.
Est-ce que tu imagines Zorro avec une cape rose ?
Non, mais ça... moi, je dis que ça serait peut-être bien qu'on change de couleur des fois. Les filles prendent des couleurs, par exemple, jaunes... et que les garçons prennent du rose ou du gelé. Et ou que les filles prennent du rouge.
Moi, je préfère le bleu.
Aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit qu'on publie des livres pour enfants contre le sexisme, les gens sont beaucoup moins conscients du sexisme qui est présent autour de nous. Il est moins affiché, il est plus en filigrane, en douceur. Et du coup, on s'en rend moins compte. Et donc, être féministe aujourd'hui, c'est finalement peut-être moins... C'est moins bien accepté que dans les années 70. Les gens ont l'impression que, c'est bon, maintenant, les choses sont acquises, on a le droit à l'avortement, les femmes travaillent. En gros, c'est qu'est-ce qu'elles veulent encore, quoi. Faudrait nous foutre la paix un petit peu. Donc, quand on dit qu'on fait des livres pour enfants engagés contre le sexisme... y a des gens qui sont conscients qu'il y a des choses à améliorer, mais il y en a d'autres qui disent « Ah bon, mais pourquoi faire ?»
Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger, ready to move out.
Pas que les garçons qui peuvent être les chefs. Parce que j'attaque des garçons. Fort quand même. Parce que le président, c'est un peu comme des chefs. Il y a aussi le président et alors il y a aussi des chefs.
Et sauf que, en plus, dans mon équipe, nous les garçons, on veut que les deux filles soient des chefs. Sauf qu'en fait, les deux filles veulent pas être des chefs.
Le rapport homme-femme dans notre civilisation française en 2012, parlons-en. Le mensuel Cosette vous invite, comme chaque année, à élire votre quiche d'or, la manifestation de machisme ordinaire la plus stupide ces derniers mois, dans l'actualité, la politique, la publicité. Alors Cosette vous suggère les déclarations dérapantes de l'affaire DSK, ces marques qui proposent des produits de beauté ou des soins aux gamines de moins de 10 ans, ou encore cette publicité pour un fauteuil et le gros coussin qui le prolonge, une jolie fille bien décolletée est assise, slogan « Fauteuil plus pouf, 1000 euros ». À vous de voter, une quiche bien gratinée, ça réchauffe les sangs en ce moment, à demain.
C'était Bruno Duvic pour la revue de presse.
Nous sommes chez Cosette. Oui. Bonjour Bérangère.
Bonjour. Donc là, c'est la salle des gens qui travaillent, donc c'est la salle la plus sérieuse. Vous avez Delphine, donc, qui est chef photo. Elsa, alias Morphine.
Cosette, un magazine plus féminin du cerveau que du capiton. Ce titre, en 2 ans, a multiplié par 5 ses lecteurs. Dans l'univers de la presse féminine, c'est rare. Mais Cosette ne se résume pas au féminin, elle s'intéresse à tout.
Surtout toutes les photos de couverture de Cosette, je ne vois pas une femme qui est moins de 35 ans.
Grosso modo, on tourne plus ou moins 30 ans, mais on s'autorise tout.
On n'est pas dans le fashion.
Ouais, on essaie de pas faire quelque chose de trop fashion parce qu'on ne l'est pas tout simplement et que Cosette n'est pas fashion.
Là, pourquoi vous ne parlez pas de mode? Parce que les féminins en parlent.
Je pense que les personnes qui veulent se renseigner sur la mode, elles ont ce qu'il faut et qu'on n'était pas.
Qu'elles n'ont pas besoin de nous pour se renseigner sur la mode.
Par contre, il y a plein d'autres choses où les filles ne peuvent pas trouver de lecture pour se renseigner sur d'autres choses que sur la mode.
Moi, j'adore vos titres, par exemple Voyager en Grèce, GRAI2SE.
Good morning Clito, on avait. VC, Cosette touche le fond.
Puis on fait des commentaires, des jeux de mots. C'est comme ça que DSK, c'était devenu l'heure de vérité. Enfin bon, voilà, c'était... Mais... Ah, l'heure, ah oui, L-E-U-2-R-E-S, voilà, l'heure de vérité. Ah oui, parce que voilà, l'affaire DSK, on avait aussi l'affaire Tron en même temps. Donc là, c'était formidable. Donc on avait mis l'heure de vérité. C'est-à-dire, on a eu besoin vraiment... Je pense qu'on a eu un choc tous et toutes, comme tout le monde. On a été un peu sidérés. Donc on a eu besoin beaucoup de se réunir. On a réuni la grande, grande équipe, parce que des fois, on fait des petites réunions, là. Là, on était bien une vingtaine, ouais. Je me souviens, 20-25. Et qu'est-ce que vous en pensez, les filles, quoi? C'était de recueillir la parole de chacune, voir si on était à peu près en adéquation, si on avait ressenti... Est-ce qu'on avait réagi sur les mêmes choses?
Donc, fellation forcée, sous-titre, en noir, en rose. Vous n'avez pas de dents, vous?
C'était retour au réel, hein, c'est ce qu'on a entendu tout au moment, à ce moment-là.
C'est ça, et en fait, ce sujet, finalement, la façon dont tu l'as traité, c'était expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme, pourquoi elle ne mord pas, ce que c'est physiquement. Mais moi, enfin, ça m'a fait imaginer à peu près comment ça se passait. Effectivement, je pense même que physiquement, elle parlait de... des vétérinaires, quand ils veulent absolument donner un médicament à un animal, enfin, il y a des moyens de forcer une bouche à s'ouvrir et de, enfin, c'est et voilà, juste expliquer ça de façon très crue et voilà, sans complaisance ni quoi que ce soit, dire effectivement c'est ça une fellation forcée, point barre.
Cosette parle aussi de sujets pas si évidents, ménopause, menstrues, enfin, il y a des sujets comme ça qui sont pas si faciles à aborder.
Bah comme nous, on n'a pas peur de perdre des annonceurs, on fait ce qu'on veut. En fait.
Là, vous avez choisi sur votre donc, ligne éditoriale, votre chemin de fer. Bon, 36-37, qu'est-ce que c'est?
Ah, alors ça, c'est un reportage sur les couples qui ont été mariés de force pendant le régime des Khmers Rouges. Donc et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a les premiers procès où on va enfin considérer que c'est ça comme un crime, les mariages forcés. Et bah, typiquement là-dessus, alors la question s'est peut-être posée en sens inverse, c'est-à-dire que la journaliste est en partie pour Cosette et très spontanément elle a interrogé plein de femmes. Et après, quand elle est revenue, j'ai demandé de dire « Ouais, mais les hommes aussi, ils ont été forcés, donc il faut parler des deux, il faut expliquer le malheur des deux. » Voilà, il y a vraiment ce souci de penser à tout le monde. Et contrairement à ce qu'on imagine du féminisme, pas de dire « Ces méchants hommes qui sont des méchants bourreaux, bouh !» et ces pauvres femmes, c'est non, c'est de marcher ensemble de façon intelligente.
Je suis une fanfreluche,
un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord j'ai les cheveux trop longs, mes ongles c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille c'est pas pour écouter, pour les connaisseurs c'est un fruit. Je suis une confiture.
Aujourd'hui, est-ce que vous êtes féministe quand vous êtes activiste au sein de Oser le féminisme? Ou est-ce que vous êtes féministe tous les jours? Ou est-ce que vous portez votre casquette féministe tous les jours dans la rue, en famille?
Bah, quand on est féministe, on l'est féministe partout, tout le temps. Et ça nous revient à la tête tout le temps, c'est normal, puisque on fait... Voilà, on est vraiment dans une construction, une réflexion, un questionnement personnel sur sa place, sur ce qu'on veut, comment on veut aussi s'inscrire dans une société, etc. Donc je pense que malheureusement, ça ne s'arrête pas, et c'est peut-être ça qui est un peu essoufflant, du coup. Mais c'est aussi ça qui est génial, c'est qu'on est tout le temps dans le questionnement de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire, de comment on veut le faire, etc., etc.
C'est fatigant d'être féministe. Est-ce que ça met dans une position de combat, finalement, quotidienne ?
Le féminisme, en fait, c'est très enthousiasmant et du coup, ça transforme effectivement la vie de tous les jours, le rapport à soi, à son corps, aux autres, au genre, donc les femmes, les hommes, comment on se les représente, comment on pense les différences. Donc d'abord, ça veut dire qu'on déconstruit tout ce qu'on a appris à croire, donc toutes les théories essentialistes, comme quoi il y aurait une nature féminine, une nature masculine. Donc tout ça, c'est relativement bouleversant et ça a des conséquences très importantes sur la vie de tous les jours. Et ça veut dire que pendant un certain temps, en tout cas, une fois qu'on commence à militer, on voit les inégalités, on voit les prêtes à penser sexistes tous les jours. On ne peut pas s'empêcher de les voir, en fait.
Je suis la femme.
Pour moi, si je devais me situer moi et si je devais caractériser l'engagement féministe, je pense que on ne vient libérer personne. On n'est pas là pour montrer la voie à quiconque. La question du féminisme et de l'engagement féministe, c'est une question qui vient politiser nos pratiques, qui vient politiser nos vies privées, notre intimité, notre façon de nous penser, notre façon d'être, qui vient déployer notre corps dans un espace public dans lequel ces corps sont malmenés. Voilà.
Où est-elle ?
Elle est partie.
Partie ? Pourquoi ?
Parce qu'elle a le courage de faire ce qui lui plaît, quand ça lui plaît.
Moi je m'en fous, moi je m'en contrefous. La 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 la.
C'est qui ce nous féministe ?
Moi je m'en fous.
C'est un nous les femmes, bien sûr, mais c'est au-delà de ça, c'est un nous qui doit rester ouvert, qui a vraiment tout intérêt à ne jamais se crisper sur une définition de qui est la plus libérée d'entre nous, en fait. Voilà. Dance floor.
Féministe, et vous ?
Yes, sir. Yes, thank you, sir. Thank you, sister.
Merci aux féministes Christine Delphi, Elsa Dorlin, les activistes de la barbe, Oser le féminisme, et au centre d'archives Simone de Beauvoir. Merci à Brigitte Bardot, Anna Karenine, Louise Brooks et Louise Bourgeois. Merci à Lola Lafont, au magazine Cosette et aux éditions Talent Haut. Merci à Pierre Comon et Étienne Leroy pour la prise de son. Merci à Christine Gage et Laurelaine Plancher, assistantes de production à Sur les Docs. Mixage Valérie Lavalard. Un documentaire de Nejma Boikra, réalisé par Christine Robert.
Au terme de cette émission de Sur les Docs, merci pour votre écoute. Nos émissions sont podcastables gratuitement sur le site franceculture.fr. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous à 17h pour rencontrer des bandes, celles de 5 frères, le Crump, la bande à Bono, et jeudi, arpenter Novgorod, avant les 24 heures à Moscou, de vendredi 2 mars.